When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, un programme finalement assez léger en nombre de jeux, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va parler de Forza Horizon 4, de Life is Strange 2, épisode 1, et de Two Point Hospital, et puis la chronique de Jérémy, évidemment, et puis le com du com, vous connaissez le programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît, Gonin des Croissants. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Et Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et ah, ça fait, mais depuis, c'est une première qu'on se retrouve tous les
ah
trois.
Oui, c'est là.
Depuis la rentrée,
le club des trois.
Allez, voilà. et ben, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec toi, Patrick, et la Switch.
Une rumeur. Alors attention, on parle bien de rumeur. Ce n'est pas avéré pour l'instant, mais c'est quand même une rumeur qui vient du Wall Street Journal, donc c'est pas complètement anodin. Ce Wall Street Journal nous parle d'une rumeur d'une prochaine Switch, d'un nouveau modèle de Switch qui se profilerait à l'horizon 2019. Alors d'après eux, ce serait pas avant l'été 2019. Alors, ce serait quoi cette nouvelle Switch? Ce serait pas une révolution, hein, ce serait un modèle qui évoluerait vers, a priori, d'après les infos qu'ils auraient pu glaner, vers un écran de meilleure qualité, un peu plus fin et surtout un peu plus d'autonomie au niveau de la batterie. Donc, ça serait un perfectionnement de la machine actuelle. A priori, il n'y aurait pas forcément de grands changements de l'architecture, c'est que ça serait a priori, hein, encore une fois, c'est de la rumeur, mais ce serait une machine qui resterait compatible avec l'actuel, c'est-à-dire qu'on garderait ses jeux et puis on évoluerait vers un hardware un petit peu plus sophistiqué, ce qui serait pas complètement choquant, c'est-à-dire que la machine aura déjà quelques années. On connaît l'habitude de Nintendo de rafraîchir, notamment sur le secteur des portables, si on considère la Switch comme une portable, de rafraîchir régulièrement ses machines lorsque on atteint un plateau de vente, de dire bah tiens, on remet un petit coup pour ou renouveler les équipements, faire renouveler sa machine ou aussi adresser d'autres consommateurs. Donc c'est une rumeur, mais ça paraît pas complètement fou que à partir de l'été 2019 ou fin 2019, on ait une nouvelle itération de la Switch qui marche bien, mais justement, pour qu'elle continue à bien se vendre, il faut aussi alimenter la machine et puis recréer aussi l'envie chez les joueurs. Donc ça reste à confirmer, mais ça serait pas complètement idiot, sachant qu'en plus, on sera dans une période d'arrivée imminente de prochaine génération chez les constructeurs concurrents. Hein. Sony, Microsoft sont vraiment en train d'avancer là-dessus. On n'a pas encore de date précise, mais on imagine du 2020, donc ce serait pas complètement idiot de rafraîchir un peu la Switch juste avant, histoire de...
Plus ou moins teasé chez Microsoft, notamment lors du dernier E3.
On le sait, c'est logique. Tout ça, c'est pas un scoop hallucinant. En tout cas, ça semble se profiler. Et encore une fois, ce qui est important, c'est logique. On va pas balancer sa Switch, on va la garder.
Oui, c'est le modèle Switch Pro, quoi.
On l'a eu sur les 3DS qui ont évolué avec différentes itérations et c'est toujours en mieux. Donc c'est une bonne nouvelle.
La première Switch a été ouverte, a été craquée par des hackers et c'est un problème hardware, donc ça ne m'étonnerait pas que ça les arrange aussi de pouvoir refermer cette brèche assez rapidement en faisant en sorte que le parc installé de consoles soit de manière hardware
propre,
fermé et propre.
Protégé, même si les hackers resteraient donc sur une V1 a priori.
On n'est pas dans la situation de la DS.
Effectivement, on n'est pas sur du piratage massif comme on a pu l'avoir sur la DS à l'époque où c'était vraiment, vraiment très très important. Là, ça reste, je pense, assez niche.
C'est l'occasion.
Je ne pense pas que ce soit le moteur pour Nintendo. Je pense vraiment que c'est l'histoire de ne pas être complètement largué avec la nouvelle génération de concurrentes qui arrivent. Mais puis c'est pas mal, si on a un écran un peu plus fin, etc. Autre chose, moi, qui m'a titillé cette semaine, c'est une annonce du côté de Netflix. Encore une fois, on parle souvent de Netflix. Sur la prochaine saison de Black Mirror, cette fameuse série qu'on aime tous, parce que c'est fascinant. Pour moi, c'est un peu le...
Parce qu'elle fait réfléchir.
Ouais, non, mais attends, c'est vraiment, pour moi, c'est le Twilight Zone d'aujourd'hui.
Ah, moi, j'aime bien Black Mirror.
C'est inégal, quand même.
J'en ai d'accord, mais c'est une anthologie, ça ne peut être qu'inégal.
Il y a des épisodes tellement bons. Enfin, moi l'épisode Star Trek, on en avait parlé.
Excellent, c'est le meilleur de la dernière saison.
J'avais adoré cet épisode. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'a priori, donc la saison 5 est en production et on a appris cette semaine qu'un des épisodes de cette saison 5 sera interactif. Oh. Et ouais, donc avec des, a priori, on laissera le choix aux spectateurs de prendre des décisions. Donc ça nous ramène évidemment à nos discussions de la semaine dernière sur Telltale qui avait des projets avec eux sur sur ce format de série interactif. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit Black Mirror qui propose ça, parce que connaissant les thématiques, connaissant
la façon...
Il peut
y avoir une mise en abîme du choix,
en fait.
Bien
sûr, à côté
c'est...
méta, ouais. Exactement. Moi, ouais. J'espère, en tout cas. J'espère que connaissant un petit peu la série, on va avoir... je pense que ça va nous donner un côté méta sur l'interaction, le rapport à, justement, du joueur au contenu, etc. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, a priori. Ça
on rappelle qu'il y en a déjà une sur Netflix, le Chapoté.
Exactement,
c'est pas leur
premier
qui propose une interaction. Alors, c'est limité, hein, c'est vraiment de 4 ou 5 embranchements par épisode.
Ce sera, j'imagine, on n'a pas plus d'infos que ça, mais je pense que ça sera du même style.
On rappelle qu'il existe un peu aujourd'hui, on a finalement aussi un milestone de la série interactive là, qui est sortie sur Steam, sur machin, qui s'appelle, je ne sais pas,
Late Shift,
qu'on merci.
qu'on avait chroniqué
et qui est vraiment, pour moi un peu l'idéal de ce qui peut se faire sur le format, parce que c'est fluide, parce que il y a beaucoup d'embranchements,
c'est propre.
Si vous n'avez pas encore joué, je crois qu'il est disponible aussi sur PS4.
Il est sur les consoles actuelles, et je crois même sur Switch.
Il est arrivé sur Switch. C'est vraiment une très belle expérience.
C'est ce dont on rêvait il y a 25 ans, lorsque le Mega CD débarquait avec Night Trap, où c'était pas très beau pas très jouable et c'était pas terrible. On rêvait de ça et c'est vrai qu'aujourd'hui la techno permet d'atteindre une vraie interaction, un vrai ressenti de cinéma interactif entre guillemets à embranchement. Et en tout cas voilà, on va attendre cet épisode interactif de pied ferme, a priori ce serait pour la fin d'année.
On en reparlera. On reste chez Nintendo, Corentin.
Oui, parce que IGN France a révélé donc cette semaine que il y avait un petit conflit entre Nintendo et Amazon France, en l'occurrence à cause du prix de la Switch. Donc Amazon a fait ses propositions pour se réapprovisionner en console, pour les vendre en son nom propre. Et Nintendo a refusé parce que le prix était tout simplement trop bas. Et du coup, en réaction à ce refus de la part d'Amazon, de Nintendo d'acheter ses consoles à un prix un peu trop bas, Amazon a décidé de ne plus la vendre en leur nom. Ça n'a pas du tout plu à Nintendo qui a réagi encore plus en disant puisque c'est comme ça, on vous fournit plus de jeux en fait, donc comme la fin d'année arrive, c'est un peu embêtant de pas avoir Smash Bros et Pokémon sur les étals d'Amazon. Du coup ça met un petit peu Amazon dedans en ce qui concerne les précommandes, parce qu'ils pourront pas toutes les honorer, en tout cas celles qui ont été faites après le conflit avec Nintendo pour
c'est
l'instant.
C'est chaud quand même.
Et ce qui se passe évidemment, c'est que sur Amazon il n'y a pas que les ventes en nom propre, il y a aussi les ventes de revendeurs tiers. La demande surpassant l'offre, le prix des consoles a évidemment gonflé sur les autres
revendeurs.
Mais c'est
revendeurs. Étonnant, c'est le côté Amazon France.
Alors, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en France, on est très bien loti en ce qui concerne le prix de la Switch. On a bénéficié vraiment d'un jeu de la concurrence qui a vraiment fonctionné, notamment au lancement de la console, où on a eu des consoles vraiment sous les 300€. Ce qui
avec des OP
assez...
spéciales, des c'est pas mal de retailers qui...
Et ça devait peut-être agacer Nintendo aussi sur le fond. Et on est peut-être sur un marché un peu plus tendu en France que dans d'autres pays. Donc
marché important pour Nintendo, la France.
C'est un marché qui est plutôt Nintendophile, en effet.
C'est important pour eux.
Après, Nintendo, je pense qu'ils ont d'autres endroits pour vendre leur Switch. Donc, s'il faut vraiment la vendre qu'à la Fnac, ils la vendront qu'à la Fnac, grosso modo. Ils ont quand même. Amazon a quand même dit que toutes les précommandes qui ont été faites avant le conflit seront honorées d'une manière ou d'une autre. Ils s'arrangeront. Et surtout, ils n'ont pas rompu complètement les ponts avec Nintendo. Et ils ont dit qu'ils essaieraient de trouver une solution d'ici Noël, histoire qu'il y ait des Switch sous les sapins.
En même temps, des conflits entre deux énormes mastodontes comme Nintendo et Amazon, on va pas trop s'en faire pour eux.
Ils montrent leurs muscles, c'est clair.
Ils sont mignons. Ils sont mignons, on va les laisser parler entre eux.
Il doit y avoir un peu d'orgueil aussi là-dedans, je pense. Mais bref. Il y a aussi le 1er octobre, Google qui a annoncé son Project Stream. Alors Project Stream, c'est quoi? C'est grosso modo leur Shadow. Leur Shadow, sauf qu'on n'a pas ni besoin de boîte, ni besoin de logiciel, ni rien. Ça marche dans Chrome directement, ce qui est assez intéressant d'un point de vue accessibilité. C'est vraiment quelques clics qu'on peut jouer.
En gros, on peut y jouer sur n'importe quel PC, une une tablette.
Ah bah, c'est le principe du stream, à condition que tu aies une bonne connexion.
Ça dépend vraiment de la
connexion. Tu peux jouer à ce que tu veux. C'est la promesse, en tout cas, du cloud gaming. Et là, ils ont fait un petit partenariat avec Ubisoft en permettant à une poignée d'Américains de plus de 17 ans, car on ne peut pas leur faire jouer à des jeux trop violents en dessous. Ouais, je reprends mon accent. Je sais, oui, je trouve le dénominateur commun qui fait que je reprends mon accent. Ils ont fait un partenariat avec Ubisoft pour tester la technologie sur le jeu Assassin's Creed.
Je vous ai dit que j'étais contre le cloud gaming.
Je sais que tu es contre le cloud gaming.
Enfin, une spéciale,
alors, en plus chez Google, excusez-moi, mais bon,
Et voilà, niveau débit, ils recommandent une connexion à 25 mégabits secondes, ce qui est assez intéressant, que c'est le même débit recommandé que Netflix. Voilà. Donc, a priori, la promesse là-dedans, c'est quand même, si vous avez un ordi avec Chrome et une connexion qui fait tourner Netflix, vous pouvez jouer à nos jeux, ce qui est plutôt intéressant.
Pas mal, hein. Si ça peut éviter de renouveler tout le temps le hardware.
C'est clair. Après, Google, on les connaît pour pondre des projets, les lâcher directement derrière. Donc, je serais pas étonné qu'on n'entende plus parler d'ici 3 mois. Peut-être.
Je vous ai dit que j'étais. Non,
c'est vrai. Ça reste un gros acteur, tu sais, Erwan. C'est pas pour te froisser que je parle de ça. Voilà.
On passe au com des coms de la semaine dernière. Alors, petit rappel, le com des coms, donc c'est les commentaires qui arrivent sur les forums officiels de Silence on Joue, écran.fr, écran au pluriel. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est encore sur. Écran.fr au pluriel / forum au pluriel. Ils sont là, les forums officiels de Silence on Joue. On commence avec Alan San. Je m'insurge sur votre vision d'épuration de fonctionnalités dans les jeux d'action. J'ai bientôt 40 ans.
On parlait de.
C'est la suite de Tomb Raider.
Sur l'interface et tout ça.
Où je m'étais un peu énervé sur le fait que c'était un peu. Ils ajoutaient des trucs. J'apprécie beaucoup que les devs aient croisé les effluves entre différents genres. Ça donne plus de consistance à chacun d'entre eux. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais moi et beaucoup d'amis accordons beaucoup d'importance à ces fonctionnalités dans les jeux. Et ça va permettre beaucoup, surtout de personnaliser son expérience de jeu et de ne pas avoir la même qu'un autre joueur. Exemple avec God of War, mon build s'est orienté vers le Berserk et tout mon stuff me poussait à faire cela à l'opposé de mes amis. Pour Assassin's Creed Origins, c'est encore plus flagrant. J'ai build mon perso pour faire de l'arc, pour tout faire à l'arc, ce qui a été un vrai défi en soi, alors que j'ai un ami qui, par exemple, a optimisé à mort pour l'approche silencieuse et le furtif. Ces fonctionnalités que vous trouvez inutiles sont pour beaucoup de personnes un ajout qui permet une plus grande rejouabilité au jeu, voire d'augmenter la durée de vie si on est un chasseur de 100%.
Je trouve qu'il a raison. Après, c'est à chacun. Il faut que le jeu laisse à chacun le choix d'aller picorer dans ses fonctions RPG ou pas. Enfin, il faut pas que ce soit quelque chose qui bloque l'expérience.
Moi, c'est surtout que j'ai l'impression que c'est beaucoup d'enrobage pour parfois cacher une faiblesse. Alors, c'est pas le cas dans God of War. C'est pas vraiment le cas en absolu sur Tomb Raider. J'ai souvent l'impression que c'est des mécanismes. On sait, le grinding, le leveling, le fait de débloquer des trucs, de collectionner, de tout ça. C'est des ingrédients un peu artificiels qui permettent d'accrocher les joueurs parce que c'est un mécanisme de jeu assez addictif, artificiellement addictif, on va dire.
Comme du sucre ou du sel. Exactement.
Alors que pour moi, c'est le cœur du jeu qui doit déclencher cette addiction-là.
Tu t'y investis autant que tu le souhaites, en fait. Si t'as pas envie de t'y investir, tu cliques rapidement et puis voilà.
Alors, à propos de Telltale, Jérémy Israël, notre chroniqueur jeu de plateau, il nous dit multicasquette. C'est à propos de Telltale, il dit ce qui rend un jeu attractif en 2018, c'est qu'il soit indé ou triple A, c'est la générosité. Que ce soit Cuphead, Celeste, Planet Alpha ou Ori, il n'y a pas besoin d'énormes moyens pour être généreux. Telltale, ils ont voulu toujours faire le minimum et se vautrer dans leur laurier. De toute façon, pour moi, ce sont des éditeurs comme Annapurna Interactive qui ont fait Edith Finch, Gorogoa ou Florence, qui ont repris le flambeau des jeux narratifs. Espérons que l'aventure Telltale découragera d'autres éditeurs de suivre ce même chemin de la crevardise. Voilà ce que c'est.
Je dirais même, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il faut être généreux. Je dirais que quand on est triple A, on peut être généreux, mais quand on est indé, il faut être focus. Il faut être focus sur un truc.
Céleste est très généreux.
Il est ultra giga focus aussi.
Céleste. Oui, bah voilà, mais c'est focus et généreux. C'est
Oui, bah il est généreux parce que c'est plus facile aussi de décliner un concept comme un jeu de plateforme où, grosso modo, il suffit de prendre une idée, de la décliner correctement et de multiplier les niveaux. Si le cœur du gameplay est bon, et c'est le cas sur Céleste, on peut très très vite avoir un excellent jeu qui est à la fois concentré et en même temps riche et qu'on a envie de continuer avec plein de niveaux.
Générosité focalisée.
Voilà, bon, ça c'est dur. Ça commence à être difficile.
C'est ça la générosité focus. Allez, à propos de générosité, là je crois qu'on va sans doute en parler parce que des voitures il va y en avoir beaucoup. Des routes il va y en avoir beaucoup. C'est Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, Forza Horizon 4, les Forza Horizon, c'est depuis 2012, après le Forza Motorsport 4, et depuis 2012, c'est en alternance avec les numéros de Forza Motorsport, donc on a la simulation d'un côté, et nous avons le fun et les grands espaces de l'autre avec Forza Horizon, et donc là, ce quatrième épisode qui débarque sur Xbox One et PC, c'est... Une évolution, c'est un Forza Horizon dans la plus pure tradition du genre. Et cette fois-ci, on débarque, on roule à gauche car on débarque en Angleterre, en Grande-Bretagne.
On était en Australie.
C'est vrai, on roule à gauche dans Forza.
On est plus en Écosse en l'occurrence qu'en Angleterre. On est à la limite apparemment entre l'Angleterre et l'Écosse.
On a quelques kilomètres carrés dans lesquels
un département à peu
s'ébattre joyeusement au volant de voitures hyper variées pour le coup. Et évidemment, bon, il va nous en parler parce que il y a cette particularité marquante.
Il est facile à attraper.
C'est le cœur du jeu.
C'est le cœur du jeu. Il y a les voitures de James Bond. Bon, allez, on va te laisser commencer.
Une dizaine de véhicules tirés des films cultes de la série. Je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière. Moi, c'était le petit truc qui m'avait alpagué lors des dernières annonces autour de Forza. Alors quand on lance Forza, c'est une baffe. Enfin, moi je joue sur Xbox One d'origine, donc qui date un petit peu. C'est pas forcément la machine à la pointe de la techno aujourd'hui, mais même sur une Xbox One de base entre guillemets, c'est une baffe visuelle. Déjà quand on lance le jeu, c'est une baffe d'ambiance parce que tout de suite on est projeté dans la musique. En fait, tu parlais de générosité, et c'est vrai que dans Forza Horizon, on est tout de suite balancé dans une effusion de visuels, de musique, de monde ouvert.
Ça ne m'avait pas fait ça depuis longtemps, et puis ça ne me l'a pas refait dans le jeu, mais je me souviens encore, quand j'ai lancé le jeu, la première image qui arrive de paysage, je me suis dit, mais ils ont mis un film.
Oui, pareil.
Et alors que non. Alors après, ça, on s'habitue à cette qualité graphique, et donc on a plus cette impression un peu déroutante d'être dans un film.
C'est du photoréalisme.
Mais la première image, j'étais là. Pourquoi ils ont mis une image de drone on est dans le jeu.
Je me suis dit, ils nous refont le coup de Need for Speed, les premiers sur 3DO, où t'avais des cinématiques comme ça, vidéo, avec des Porsche qui courent dans tous les sens. C'est super beau. Alors moi, j'ai réécouté notre émission d'il y a 2 ans avec Joël, Métro, on avait parlé du 3. Je me suis dit, faut faire attention à pas tout redire, parce qu'on va beaucoup se redire. Parce que déjà, le 3 était un monument à l'époque, on en avait parlé. C'est vrai que c'était déjà visuellement, en termes de réalisation, un jeu mémorable. Et c'est vrai que le 4 marche vraiment sur ses pas. On a encore une fois, on a une mise à jour visuelle qui est flagrante. On parle de photoréalisme, mais dans le sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment, comme tu disais, un rendu quasiment vidéo. Quand on joue, on se dit, mais c'est incroyable. Ils ont vraiment il y a un côté maniaque dans les décors. Ouais. C'est vrai que le rendu,
la texture,
en plus avec la nouveauté, ce sont les saisons qui se succèdent dans le jeu, et c'est vrai qu'il y a un rendu visuel assez hallucinant. Puis évidemment, il y a un amour de la carrosserie dans le jeu qui ressort, on le voit. Enfin, les voitures sont modélisées avec un soin maladif, hein, on le sent. Elles s'endommagent, elles s'abîment, ce qui n'était pas le cas de toutes les simulations.
Alors,
comme
elles s'abîment Légèrement.
Légèrement, hein, mais
parce
les carrosseries...
Parce que alors, tu peux faire de la tondeuse à gazon avec des murs en briques et tu continues à rouler quand même. Hein, c'est...
Et ça tient. Mais, ouais. mais bon, quand même, t'as quand même un... visuellement, elles en prennent quand même plein la tronche. Que dire sinon, voilà, c'est super beau. Je trouve que le côté monde ouvert, c'était la recette de Forza Horizon depuis le début, fonctionne bien. Alors, moins de différence par rapport à il y a deux ans, peut-être que c'est moi avec l'âge. J'avais vraiment, je m'étais cantonné au jeu en vue intérieure. Moi, je suis attaché à la vue intérieure depuis Need for Speed, Test Drive. Moi, je suis de l'époque. Là, je suis vraiment passé en vue troisième, enfin, vue de l'extérieur. Et je trouve que c'est vraiment, on sent que le jeu a quand même une filiation arcade nette. On sent qu'on est vraiment appelé vers la vue extérieure, donc on est beaucoup moins sur de la simulation, on est vraiment sur un... Je trouve qu'on ressent mieux la voiture. Moi, c'est peut-être la différence avec il y a deux ans, où je m'étais attaché à la vue intérieure. Là, je trouve que non, je me suis bien plus amusé en vue extérieure. Puis bon, bah, une Lotus Esprit en vue extérieure, on la voit mieux. Donc ouais, il y a ces voitures Bond qui sont là, qui me faisaient un appel du pied, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a une profusion de modèles de voitures dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un fanat de voitures, c'est pas mon truc. Mais malgré tout, je suis admiratif de cette générosité de voitures et old school, parce qu'on a des modèles rétro. Enfin, je pense que vraiment, pour les amoureux de bagnoles, c'est un plaisir de jeu. Mais même quand on n'est pas un fanat comme moi, il y a un vrai plaisir de jeu. Ça reste très accessible. On est sur un jeu, je pense que c'est vraiment la volonté des développeurs, hein, c'est d'avoir quelque chose qui se rapproche de la simulation en termes d'exigence. Je pense que quand on est passionné, on va vraiment creuser la modularité des modèles. On va creuser vraiment les réglages, etc. Mais quand on est un joueur d'arcade, on prend un pied quasi immédiat parce que le jeu est très accessible. On s'amuse assez vite. On perçoit très vite que les différents modèles de voitures ont des comportements vraiment qui changent. Donc on a... Que dire ? Enfin, c'est vrai, il y a vraiment une profusion de contenu et de choses à faire. Et c'est vraiment très impressionnant. Et c'est vrai que le jeu, quand on le lance, il est impressionnant. Même visuellement... Au niveau du son, il attire l'œil immédiatement, même quand il y a d'autres personnes dans la pièce. Waouh, c'est quoi ce truc, quoi ? Il est impressionnant, vraiment.
Corentin ?
Les jeux de course m'ennuient profondément.
Ah bah bienvenue.
Mais Forza Horizon, j'adore toujours autant.
Enfin, c'est voilà, ça.
C'est hallucinant. Ouais. À chaque fois qu'on propose un Forza Horizon, à chaque fois. En vrai, c'est le deuxième que je teste. Parce que le premier que j'avais fait, c'était le tout premier. J'ai pas fait le 2 et le 3.
Alors, hein.
C'était à l'époque. Hein. Parce que si j'ai bien suivi le film, le premier, c'était le premier qui posait la recette. Le deuxième, c'est celui qui arrivait avec les nouvelles consoles.
Ouais.
Le troisième, c'est celui qui a amené les voitures un peu plus rigolotes, genre les Hummers, les quads dans la nature. Tout ça, et celui-là c'est celui qui apporte les saisons, si j'ai bien compris le film. Et en fait c'est bien comme ça, j'ai tout rattrapé d'un coup. Et honnêtement, mais quel pied, quoi. Ouais. Donc à chaque fois je suis là, oh non Forza, je vais le lancer comme ça. Puis à chaque fois il est 5h du matin, j'ai toujours pas lâché la manette et je comprends pas ce qui m'est arrivé, parce que le jeu en fait est fait grâce à sa recette depuis le départ, mais depuis le premier, hein, et qui fonctionne toujours autant sur la base d'une espèce de liberté, d'une espèce de fun immédiat, d'une espèce de détente globale. C'est-à-dire là où on a des Gran Turismo ou des Forza Motorsport qui vont être là pas clivant, mais c'est pour un type de personne, tu vois, c'est pour ceux qui savent utiliser le bouton frein.
Voilà. Il faut s'investir.
Non, et déjà, c'est les jeux qui te font culpabiliser quand tu roules en automatique.
Voilà, c'est un peu ça. Alors que dans Forza, fais-toi plaisir. Dans
Forza,
nature.
Tu as le petit, et moi je l'ai beaucoup aimé, tu as le petit dessin de la manette qui t'explique les commandes. Donc tu as la gâchette accélérée, la gâchette freinée, le frein à main et la direction. Point.
Et voilà,
il n'y a rien d'autre.
La croix, je crois, pour répondre aux appels, des trucs comme ça.
Oui. Mais grosso modo, c'est un jeu en fait qu'on peut mettre vraiment dans toutes les mains, et je crois que l'exemple le plus frappant, c'est que donc j'ai lancé le jeu devant ma copine qui était un petit peu curieuse. Non mais voilà, si je dis jeu de course à ma copine, elle s'en fiche, quoi. Enfin, grosso modo, même Mario Kart, ça l'ennuie, donc c'est pour dire à quel point les jeux de voiture c'est pas son truc. Mais alors là, elle a pris la manette, je peux aller dans les Landes et tout, ouais vas-y. Et puis elle a fait n'importe quoi, et elle était mais explosée de rire, elle était trop contente. En plus le jeu est ultra généreux sur son HUD, tu fais n'importe quoi, tu gagnes des points, c'est formidable ce jeu. Tu renverses,
tu fais n'importe quoi,
t'as des points. C'est-à-dire le jeu te récompense pour tout et n'importe quoi.
Là, t'es content d'être là en fait.
T'es content d'être là.
Tu restes, tu fais une course que t'enclenches. Donc on est en monde ouvert sur une carte. Ouais. On a des appels sur des événements comme dans tout monde ouvert. Hop, on loupe une. Mais je suis pas très bon en plus. Mais je loupe des fois une course et c'est pas grave. Hop, on enchaîne sur le monde ouvert. On change de voiture. On repart aussi vite. On s'ennuie jamais. En
on
fait.
S'ennuie
il y a,
jamais.
Côté parc d'attractions, c'est ce que j'avais dit il y a deux ans sur le 3. C'est un parc d'attractions et du coup, tu t'éclates tout le temps.
Et surtout
à chercher une nouvelle activité, tu vas tourner une scène d'action d'un film dans une mission, tu vas... T'achètes une maison.
C'est un jeu qui a un spectre de visée très large. C'est-à-dire on peut être un amateur total et s'amuser juste en se baladant dans le monde ouvert. On peut être un amateur de course plutôt arcade et il suffit de choisir les voitures un peu plus arcade, genre les petits quads ou les machins. Pas besoin de prendre des voitures de sport horribles à conduire et qui demandent une technicité bien plus grande. Et je comprends tout à fait que ça puisse plaire. Ça peut plaire aux gens qui aiment la customisation, parce qu'on peut vraiment customiser ces voitures, mais à l'envie.
Les repeindre.
Moi, j'étais chargé des voitures d'Otaku avec des personnages d'animé dessus. J'étais en mode waouh, il y en a vraiment pour tous les goûts.
C'est vrai qu'il y a des trucs. Moi, hier, j'ai vu une Lamborghini Countach redécorée en Vice City. Je dis, mais bravo, le mec, il a dû passer un temps fou dessus. C'est cool.
C'est assez dingue. Et moi, en plus, vous parliez du photoréalisme. J'ai un ordinateur. Alors moi j'ai joué sur PC, j'ai pas de Xbox, donc j'ai joué avec mon ordinateur il a quand même 3-4 ans, donc il est plus tout à fait frais, mais il tournait bien, ça allait, puis
c'est bien optimisé quoi, c'est bien.
Il est bien optimisé, alors à part cette pop-up qui te hurle à chaque fois que t'as plus de mémoire graphique, mais ça c'est un autre problème, je pense qu'ils le corrigeront plus tard. Mais le jeu tourne très bien, mais il me hurle qu'il y a plein de problèmes, alors que non, le jeu tourne bien, arrête de m'embêter. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est fait pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment le jeu qui est fait pour les gens qui n'aiment pas les jeux de voiture manière générale, et sincèrement tout est fait dans le jeu, tout est designé pour que ça soit sympa à jouer. Il y a plein, en fait, notamment ils sont assez forts pour ça. C'est un jeu qui se picore beaucoup avec une profusion de bars. Alors c'est un jeu qui adore les bars,
très visuels, très graphiques, de la musique dessus,
voilà, très graphique, donc des bars qui se remplissent, des points à gagner, des machins. Il y a toujours quelque chose, en fait, ces fameux mécaniques un petit peu addictives. Alors là, on en est rempli, mais elles sont pas vicieuses, elles sont juste là pour
je les trouve plutôt naturelles, en fait. Parce que généralement, tu finis une course, en fait, ça te débloque la course suivante. T'as une barre qui se remplit, tu vois.
T'as plusieurs trucs en général.
L'influence, le pognon,
par exemple, moi, j'étais plutôt axé sur le country. Les courses hors route, les champs country. Ah, j'ai oublié, c'est pas grave.
C'est pas club country.
J'ai oublié le nom, c'est pas grave.
Cross country,
merci beaucoup. Je faisais que ça. Enfin, je faisais beaucoup de ça parce que je trouvais ça super. Et le jeu te récompense en te disant t'aimes faire le cross country, voilà 5 nouvelles courses de cross country rien que pour toi. Et t'es en mode, mais grave, c'est super.
J'adore, c'est le jeu qui t'accueille. Hey, salut Patrick, vas-y, tu vas prendre une voiture. On en avait parlé il y a 2 ans, c'est pareil.
Moi, j'ai eu le salut Erwan. Et ça m'a fait l'effet la même chose il y a 2 ans, et j'étais là.
Il vous a appelé par votre prénom?
Mais oui.
Il n'a pas enregistré Xbox, Corentin. Il ne sait pas dire Corentin.
J'ai pas dû mettre Corentin dans mon profil.
Évidemment.
Moi, salut le débutant.
Ah ouais.
Ça franchement, moins bien.
Il y a un effet waouh quand même quand tu dis salut Erwan.
Je veux pas te dire que je le sais un petit peu avec les croissants, mais on compte un peu là-dessus. Mais du coup, oui, moi j'ai le droit à l'étranger, enfin le débutant. Je suis un peu déçu là. Microsoft.
Tu résumes bien. En fait, il parle aux gens qui n'aiment pas les jeux de voiture. C'est quand même un paradoxe.
Mais
c'est
je suis pas d'accord.
C'est pour tout le monde.
Voilà. Mais je pense aussi que c'est quelque part, c'est les jeux de simulation automobile qui ne parlent pas aux gens qui aiment les jeux de voiture tranquille, quoi. C'est la simulation automobile, c'est les gens qui aiment la simulation automobile. Moi, il y a combien de jeux de simulation automobile que j'en avais parlé des jeux de rallye dernièrement où quand tu aimes juste les jeux de bagnole, ton jeu de simulation de rallye, t'en chies et tu peux plus, t'arrives pas parce que ils ont décidé que quand tu cognes un mur, tu te pètes les phares et donc tu vois plus rien et donc tu finis n'importe comment. Je trouve que c'est un retour justement aux gens pour les gens qui aiment les jeux de course, parce qu'on aime, ce que vous dites, c'est vous aimez les jeux de course, vous aimez juste pas les jeux de simulation.
Mais la preuve, tu finis 12e sur 12e, t'as quand même de la lumière, des trucs dans tous les sens. T'as une barre qui se remplit et finalement, tu t'accroches parce que t'es pas découragé. Tu dis je vais quand même la refaire parce que je vais essayer de monter un petit peu dans le classement, et finalement tu apprends aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins t'es moins critiqué que dans d'autres jeux où...
Ah non, mais t'es pas du tout critiqué,
t'es toujours encouragé à continuer, en fait.
C'est simple,
quoi que tu fasses
le jeu, si tu le mets j'ai pas testé le mode le plus facile possible, mais si tu mets tout en facile, grosso modo il va dire t'as pas de bonus, mais c'est bien, tu gagnes le prix. Et même le mode normal, genre vous voulez quoi, vous voulez un mode normal, machin. Je fais bonne mode normal, s'il te plaît. Et déjà là, t'as genre plus 40% ou plus 30% de, des points gagnés. Donc en fait, le jeu t'encourage en disant oh, c'est bien. Enfin, c'est vraiment le jeu de la,
il est
de,
fun,
de la tape dans le dos tout le temps. Mais que ça soit dans les mécaniques de jeu, que ça soit aussi dans le discours obtenu. C'est le débutant. Waouh, j'ai vu ce que tu faisais, mais c'est super. Oh, j'adore. Viens, j'ai grave envie de t'avoir dans ma course. C'est vraiment
les
cool.
De monde ouvert, t'as toujours
et
envie
alors,
d'aller
je
grappiller.
Sais pas, je sais pas vous, mais j'ai trouvé qu'il y avait, eu quand même du boulot. Comment dire en fait, j'ai pas trouvé. Contrairement aux autres Forza Horizon, où j'étais un peu gêné par le côté wa-cool. le côté je te tutoie avec des lumières et des trucs partout et machin. Dans les autres Forza Horizon, j'avais parfois une tendance à trouver ça un petit peu envahissant.
Une sorte de contexte
un peu l'événement Horizon. Ah ouais, c'est super et tout ça. Et ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus acceptable. Oui, tu as encore des petites scènes de dialogue en dehors de ta bagnole.
Avec des
mais
mecs, des persos qui sont pas terriblement foutus. Tu sens que c'est pas le point
ça
fort
va vite,
du jeu. Quoi.
Ça va vite et on est très vite sur la course, très vite sur le moment. Et j'ai trouvé qu'il y avait une fluidité, vous en avez parlé, mais une fluidité pour on finit une course, il y en a d'autres qui s'ouvrent, on fait un petit trajet en voiture.
On va casser 3-4 panneaux.
Tranquille pour
mais
y
la
aller.
Preuve, et, je sais pas si vous l'avez ressenti, excuse-moi, mais moi, un truc, j'ai eu du mal à couper une partie. Tu loupes une course, t'arrêtes et puis tu dis, ah, je vais arrêter. Ah bah tiens, je vais aller voir ce point-là sur la carte. Ah bah tiens, je vais faire un peu de course libre, je me balade. Ouais. Puis il y a ces moments de grâce où tu es dans une Lotus Esprit blanche. Moi, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, ah, j'y suis quand même. Ouais. Une Lotus qui est magnifiquement modélisée, tu roules dans la campagne anglaise, tu y es, quoi. Il y a vraiment un pied.
Puis j'aime toujours autant la recherche des granges dans la nature. Là. Ouais. On t'indique une zone.
Open world, là, c'est vraiment la composante open world où tu vas aller un peu défricher des endroits.
Voilà.
Comme ça.
Et il faut trouver une grange dans laquelle il y aura une voiture de collection.
C'est des énigmes un peu. On te dit, voilà, il y a des endroits qui ont été repérés, on sait qu'il y a des choses cachées. Oui, bon, et vas-y.
L'énigme s'arrête, genre, c'est un rond sur une carte, tu sais que la grange
est dedans. Aller chercher.
Bah, il est grand, alors.
Faut chercher.
C'est pas évident.
Alors,
un jeu
il est grand, mais ils ont. Alors, je sais pas, c'est que c'est déjà dans les anciens. Il y avait pas en tout cas dans le premier, mais on a un drone maintenant qui permet de vraiment couvrir très rapidement une zone. Donc si on n'y arrive pas, on peut tout à fait utiliser le drone pour essayer de d'y aller plus vite. Mais moi j'aime beaucoup et c'est vrai que. Alors ça va peut-être paraître bizarre, mais ce The Legend of Zelda Vroom Vroom of the Wild, il est vraiment cool, quoi. Comme tu disais, on peut pas faire un trajet sans être attiré par un autre truc.
Zelda,
oh là-bas, il y a un panneau, on va aller le casser. Puis en fait, le panneau, il est sur un toit. Alors, faut trouver le moyen pour se caler comme il faut et faire le bon saut pour sauter. Et puis, en fait, on se plaît bien là à rouler. Alors, tiens, je vais mettre un truc en plus. Puis en plus, les radios sont sympas. Moi, j'aime bien la radio classique où t'as le vieux grincheux qui se plaint que le festival ait choisi sa ville pour tout casser. Enfin, non, mais
c'est un peu le meilleur. Pour moi, je pense que c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a un jeu d'arcade très facile d'accès et en même temps, on sent que derrière, il y a quand même une base de données de recherche sur les voitures. De
ça
simulation,
s'accumule.
De. On sent.
Et
voilà,
là, on est clairement dans cette alchimie assez fascinante parce que moi, je connais pas bien les trucs de physique de voiture, mais là, on sent le poids des voitures. Enfin, il y a un truc où on t'explique pas forcément si ça va être une course plus en dérapage, plus en contrôle de vitesse, plus en freinage, machin. Et ben, tu le sens. Ils ont réussi un truc, je sais pas si c'est parce que ça reste arcade, c'est pas
il y a une pointe de simulation dans de l'arcade.
Voilà, il y a une pointe de simulation
et tu sens la physique,
tu t'arrives à doser un peu les accélérations pour partir en dérapage. Alors c'est pas trop réaliste parce que tu pars pas totalement dans le décor si tu fais n'importe quoi, mais ça demande un tout petit peu de technique et puis t'es content, t'as une sorte de c'est hyper satisfaisant.
Ouais, mais tout le jeu
quand t'arrives à faire un virage où t'as bien dérapé, où tu reprends ton accélération au bon moment. Et
le rewind, en plus, permet de peaufiner
ta technique. Et ce rewind qui est le comble de la bienveillance dans le jeu de bagnole, c'est-à-dire que tu as un certain nombre de rewind où tu as fait n'importe quoi.
Quand on prend un checkpoint ou un.
C'est super appréciable.
Encore une fois, ça permet d'éviter la frustration qu'on a parfois au bout de 10 minutes de course de se planter dans un truc.
Mais le truc qui était étonnant, et c'est là où j'ai trouvé. C'est tous ces trucs d'alchimie que tu saisis pas bien, tu sais pas trop bien comment ils ont fait. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je fais une course et j'arrive 11e ou 12e parce que je me suis planté, parce que machin. Et ben, je la refais.
Ça nous arrive tous,
Je la refais et j'arrive premier. C'est-à-dire que en fait, il y a quand même
une progression.
Il y a un truc d'apprentissage qui se passe complètement à ton insu et qui est hyper efficace parce que tu apprends à le circuit, tout ça, mais pas d'une manière compliquée comme dans les jeux de simulation.
Le truc, c'est que tous les trois, je pense qu'on est à peu près pareil. On n'est pas des passionnés de bagnole, donc on adore ce jeu parce qu'il nous fait rentrer. Je pense que c'est intéressant dans le point de vue de fanat de motorsport, de la série parallèle et de savoir ce qu'eux en pensent. Voilà, d'avoir des
je suis sûr qu'il y a
d'autres
podcasts.
Je pense que ça serait intéressant de voir ce que des passionnés de la série motorsport pensent de celui-ci.
Je pense qu'ils peuvent pas mal customiser leur bagnole aussi. Il y a plein de réglages aussi, la pression des pneus.
Je pense qu'ils peuvent
le
voir comme une récréation, à mon avis, un peu arcade.
Ah, bah, complètement arcade. Enfin, au bout d'un moment, quand t'es dans ta voiture à faire une course avec un train sur la musique de Peer Gynt, oui. Je veux dire, oui.
Ah oui, parce qu'il y a ces événements un peu foufou.
Ah non,
un peu foufou. L'hydroglisseur, le train.
Ah, le train, mais trop bien, le train. Ah oui, sérieux, c'était vraiment bien, quoi.
C'est impressionnant, c'est vrai que c'est bien fichu. Puis le jeu est tellement beau que tout prend une ampleur.
Tu prends un pied fou, quoi. Enfin,
le spectacle de la voiture.
C'est non seulement un spectacle, mais aussi une générosité. Franchement, je recommande ce jeu à tout le monde.
Il est difficilement attaquable. Faut reconnaître qu'il est assez complet.
Puis on n'a même pas parlé des saisons, mais c'est vrai que les saisons apportent aussi pas mal de changements. Alors, dans un premier temps, il faut les finir une par une en cumulant suffisamment de points d'influence qui représentent l'expérience en vrai.
Ce qui va vite.
Et après, c'est en fait après elle change toute seule, par tranche de quelques jours. Et comme il y a des événements saisonniers, en fait, il y a des courses qui apparaissent, qui disparaissent, sans compter évidemment tous les événements en ligne. Moi, j'ai participé à un Forzaton. C'était sympa. Le Forzaton, c'est quand un groupe de voitures se rejoint à un même endroit sur la carte, et là vous devez tous en commun faire un objectif du style on doit tous cumuler 1 million de points en 3 minutes, c'est parti tout le monde. Et t'es là en mode mais ouais tout le monde, et tu vois tout le monde changer de voiture, prendre un Hummer pour faire des trucs plus sympas, c'est parti. Ou alors il faut cumuler tant de vitesse sur une ligne droite avec un radar au milieu, tu vois tout le monde qui fait nion nion nion, et grosso modo c'est super cool. Enfin, tu te sens vraiment part d'une espèce de bande qui font n'importe quoi, mais de manière un peu gamine en fait. Enfin, c'est vraiment cool.
Après, niveau carte, c'est vrai que c'est peut-être moins exotique que certains. Moi, je pense à The Crew, le deuxième qui était sorti.
Ah, mais moi, j'aime bien cet environnement.
Qui était beaucoup plus large, etc. Enfin, après, ce sont des points de vue complètement différents.
Mais là, on peut acheter le château d'Édimbourg.
Ouais, et ça, c'est la classe.
Pour 15 millions de crédits.
Donc, il y a des heures de jeu quand même pour l'attraper.
Forza Horizon 4, Xbox One et PC. Alors, c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Klitzkin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Cette semaine, on va parler de Welcome To, où vous allez construire vous-même votre propre quartier et vous allez lui donner un nom. Si vous aimez le bingo, alors ce jeu vous plaira. Mais évidemment, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus moderne. Vous incarnez un architecte aux États-Unis dans les années 50 et vous avez l'opportunité de développer le quartier d'une ville. 3 rues pour être précis. Chaque joueur va donc recevoir une feuille sur laquelle il va inscrire le nom de son quartier et où sont dessinées les 3 rues. Dans ces rues, il y a 10, 11 et 12 maisons. Et on va à chaque tour dévoiler 3 cartes. Des cartes qui proposent d'un côté un numéro et de l'autre une action. Ces numéros de 1 à 15, vous pourrez les inscrire sur l'une des maisons dans l'une des rues de votre choix. Puis vous pourrez utiliser l'action associée au numéro que vous avez choisi. Et là, tout se complique évidemment. Les numéros doivent se suivre. Vous allez devoir choisir entre poser le numéro qui vous arrange ou l'action qui vous arrange. Il y a aussi des objectifs individuels. On va pouvoir ajouter des barrières pour délimiter des lotissements et des objectifs communs à tous. Par exemple, si vous êtes le premier joueur à délimiter 4 lotissements de 2 maisons et 3 lotissements de 1 maison, vous obtiendrez des points supplémentaires. Évidemment, on va pouvoir guetter la stratégie des adversaires, mais c'est un jeu très gentil. On ne peut pas détruire le quartier des autres, on ne peut pas leur faire de mal. La partie se terminera une fois qu'un joueur sera coincé et ne pourra plus rajouter des numéros dans aucune des rues. Et on comptabilisera les points en regardant combien de rues ont été complétées, combien de parcs, quelle est la taille des parcs, le nombre de piscines qu'on a réussi à construire, etc., etc. C'est un jeu très plaisant, très familial, qui convient à tous. Sur la boîte, il est indiqué de 1 à 100 joueurs. Évidemment, c'est un peu exagéré, je dirais entre 2 et 5, 6, c'est idéal. Mais après, si vous avez beaucoup, beaucoup d'amis, rien ne vous empêche d'essayer. C'est recommandé à partir de 10 ans, pour des parties de 25 minutes environ. C'est édité par Blue Cocker, le nom de l'auteur Benoît Turpin. J'avoue que depuis que je l'ai découvert, je le dégaine sans arrêt. C'est une solution de facilité pour jouer un peu avec tout le monde, sans stress. Il y a quand même des morceaux de stratégie. On optimise, on croise les doigts. Les illustrations sont très jolies, très sympathiques. Ambiance années 50. Et là, je vous regarde droit dans les yeux, très sérieusement. Essayez les jeux de plateau. Erwan, donne l'exemple. Joue au jeu de plateau. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux sains, pas virtuels, où il n'y a pas besoin de sortir des lois pour préserver la jeunesse. Bye bye.
Bye Jérémy. Merci pour ce petit jeu où on ne peut pas détruire le quartier des autres. C'est dommage, quoi. Non, c'est pas... c'est bien. On est dans les jeux sympas. Allez, c'est le moment de Life is Strange 2, le premier épisode qui vient de sortir. Alors, petit trigger warning. Ça va être compliqué. On est sur un jeu narratif. On est sur un jeu qui, on va parler de, évidemment, de la mise en scène. On va parler de choses comme ça. Mais ça va être très compliqué. Ça va être trop compliqué de parler vraiment de ce premier épisode de Life is Strange 2 sans en dévoiler quelques, pas tout, hein, forcément, mais quelques éléments, quelques moments. Sans doute, voilà, il y a des moments qui sont dans la bande-annonce dont on va parler, mais que certains joueurs peuvent vouloir ne pas savoir avant de lancer le jeu.
On recommande d'ailleurs de découvrir le.
On recommande complètement Moi, j'avais même pas vu la bande-annonce et c'est une très bonne expérience. Donc voilà, si vous comptez jouer à Life is Strange 2 et si les, le fait de vous faire spoiler vous gêne, parce que bon, il y a aussi des gens qui s'en foutent de se faire spoiler. Voilà, on vous conseille plutôt de faire cet épisode qui dure entre deux et trois heures et de revenir nous voir, de revenir voir si l'on s'en joue après. Enfin bref, voilà.
Mettre des commentaires. S'ils sont pas d'accord encore après.
Voilà, c'est ça. Donc bon, on écoute quand même un peu de Life is Strange 2. This is a nightmare. No way. Sean, maybe you could come back. I'm sorry, Layla. I can't. I have no idea where we are. What I'm doing. It feels like we're walking nowhere. Sean, I'm scared. I'm right here. How am I supposed to take care of us out here? I know who you are and what you did. Life is Strange 2, premier épisode. Autant dire, vous le savez, hein, si vous nous écoutez depuis quelques années déjà, le premier Life is Strange, en tout cas, avait été, on l'avait assez unanimement, on avait assez unanimement dit que c'était quand même un très 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 bon jeu.
Tu vas être étonné, hein.
Narratif, pas toi.
Non, j'ai toujours trouvé Life is Strange assez moyen, enfin inégal en tout cas.
Mais tu n'étais pas là, dans Silence on joue à l'époque. En tout cas, pour ma part, ça avait été vraiment une très belle expérience et j'avais beaucoup aimé ce premier Life is Strange. Autant dire que surtout après ce Captain Spirit qui arrivait et qui teasait un peu cette deuxième saison de Life is Strange, on attendait quelque chose de la part du studio français Dontnod. Moi j'ai été complètement bluffé, vraiment séduit au-delà du raisonnable par ces trois heures de jeu. Tiens, je vais te laisser la parole, Corentin.
Eh ben, vous savez quoi ? En un épisode, Life is Strange saison 2 m'a apporté plus d'émotions que toute la saison 1 réunie. Donc voilà, je crois que ça résume à peu près ce que je pense de cet épisode qui est vraiment, mais qui m'a mis un peu sur les fesses. Donc, au revoir Max et au revoir Chloé qui étaient les héroïnes de la première saison en fait. Et on est avec maintenant Sean et Daniel qui sont donc deux jeunes garçons, on va dire, d'origine hispanique hein, dans le jeu.
Oui, c'est décrit comme tel.
C'est décrit comme tel et donc on va déjà rentrer dans le spoiler hein, puisque... C'est vrai qu'on ne le sait pas trop. Je ne crois pas qu'on le sait dans la bande-annonce, mais il y a un événement tragique qui se déroule au début de l'épisode, assez tôt, après le prologue, en fait, et qui va déclencher leur exode, en fait, leur migration, finalement, hein, puisque c'est tout le sujet. On est dans un jeu qui est résolument moderne, qui veut s'ancrer dans une actualité très claire. Hein. Il y a des références à l'Amérique de Trump, il y a des références à certains murs qu'on voudrait construire au sud du pays, à une certaine violence policière qui pourrait...
Au premier jeu aussi, il y a des petits trucs...
Oui, mais bon, c'est pas le centre de... Enfin, moi, je suis très heureux, en fait, qu'il coupe complètement les ponts avec le premier jeu qui m'avait pas convaincu à 100%. Mais là vraiment, on est sur un autre sujet. On est vraiment sur un autre sujet.
On est sur un autre sujet avec un lien géographique. C'est-à-dire qu'on est sur la même... On commence dans la même région de l'Amérique, c'est-à-dire le nord-ouest américain.
Donc, Seattle, Oregon, tout ça. Voilà. Et État de Washington. Et du coup, on a un autre lien aussi qui est la présence de phénomènes qui ne sont pas forcément naturels. Donc, dans Life is Strange saison 1, c'était la capacité de Max à remonter le temps. Dans la saison 2, on le découvrira. Mais a priori, on le découvre même tout de suite, immédiatement. On ne sait juste pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais a priori, il y a des objets qui volent très vite dans le ciel et des ondes de choc qui cassent tout sur leur passage. Je peux commencer à spoiler. Donc, grosso modo, les parents de Sean et de Daniel se font tuer suite à une altercation avec leur voisin, en fait, sur une violence policière
banale. Alors, par contre, dans les spoils, on ne va pas spoiler le scénario pour le raconter.
Mais c'est pour expliquer pourquoi ils partent. Enfin, les deux gamins partent, donc le grand frère qui a quoi, 16 ans, c'est ça, et le petit frère qui a, ça arrive très vite, hein, ça arrive dans la cette 40 minutes de jeu, on a cette situation qui met en route le scénario, et on va se rendre compte qu'on est parti, et c'est moi ça qui m'a énormément plu, c'est qu'on est parti sur une fuite en avant, et aussi une épopée en fait, une odyssée de ces deux jeunes garçons qui sont démunis, qui improvisent en fait. Enfin, le grand frère voit très bien ce qui va lui arriver s'il traîne dans les parages, parce que malheureusement, bah oui, aux États-Unis, si on est un petit peu, on a le délit de sale gueule quand il y a des violences et qu'on est là au milieu d'une altercation, bah, c'est souvent toi qu'on va accuser, c'est souvent toi qu'on va envoyer en prison. Il ne veut pas que ça arrive, il veut quand même rester uni avec son frère, parce qu'à la base c'est une famille heureuse, hein, c'est une famille pas forcément richissime mais qui est heureuse, et on sent que Sean veut préserver ça, et c'est pour ça donc qu'il décide d'emmener son frère et de partir dans cette épopée, mais tout seul, démuni. Ils partent vraiment avec trois fois rien, quelques dollars dans le portefeuille, une couverture, des chips et en ce qui me concerne des bières parce que j'ai été bête. Bref, donc on arrive dans cette histoire où on se dit mais ils vont où là les loulous ? Ils vont où ? Ils font quoi ? Je suis très inquiet pour eux. Au début j'étais même vénère contre Sean. Mais t'es irresponsable. T'as pensé à Daniel 5 minutes. J'étais vraiment vénère contre... Et en fait, au bout d'un moment, notamment à la fin de l'histoire où je raconte rien de ce qui se passe, mais j'ai fini par comprendre, j'ai fini par vraiment rentrer dans la peau de Sean, parce que sa réflexion est juste. S'il reste dans le coin, il va lui arriver des bricoles.
Ouais. Il a des informations qu'on n'a pas forcément.
Voilà, parce que lui, il vit dans un contexte. Il vit dans une Amérique qui n'est pas toujours très tolérante envers les minorités. Il vit dans une Amérique violente. Et il sait que il n'est pas totalement en sécurité comme, je ne sais pas, un homme blanc comme moi en France peut peut-être se sentir. Donc c'était un peu compliqué pour moi au départ de comprendre les motivations. Et puis au final, au bout de certaines péripéties que je ne vais pas dévoiler, j'arrive à rentrer dans la peau de ce Sean. J'arrive à vraiment être un supporter de ce qu'il fait et dire « Bah vas-y, écoute, vis ta vie. » D'autant qu'il y a des personnages... En fait, ce qui est bien, c'est qu'on distille un peu les personnages vraiment dans une Amérique qui est en conflit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire c'est il y a à la fois en effet cette Amérique qui est vraiment qui est puante de racisme, de méfiance, de division, comme je l'ai dit, il y a des références à Trump évidentes qui ont été quand on va dans les SMS, on fait j'y crois pas qu'il a été élu. Bon, on sait de qui on parle.
Oui, mais c'est des références effectivement évidentes, effectivement explicites, mais j'ai jamais surimposé, c'est-à-dire qu'effectivement les références les plus importantes se font si on revient dans l'historique des conversations SMS de Sean. Il y a quelques références dans les dialogues.
Il y a des personnages qui le disent assez ouvertement.
Il y a des personnages qui le disent assez ouvertement.
Notamment.
Mais on n'est pas dans le truc surjoué. C'est-à-dire que ça fait partie de l'environnement.
Il y a pas un clin d'œil. Regardez, on vient de dire.
Oui, on est engagé quoi.
Voilà, il y a une finesse dans le propos qui est vraiment remarquable pour le coup.
Et pour le coup, c'est quelque chose que je reprochais moi à Life is Strange 1, qui allait un peu fort, qui était un peu oui, on a compris ce que tu veux dire, on a compris que le harcèlement c'est pas bien, on a compris, tu vois. Et là c'est assez fin finalement, et comme tu le dis, en effet, on peut aller fouiller dans les SMS, on n'est pas obligé, mais on peut aller fouiller dans les SMS pour aller comprendre un contexte de cette Amérique là et je trouve ça vraiment vraiment fin, vraiment bien travaillé, en plus de toutes les améliorations qu'on peut avoir dans une suite qu'on pouvait attendre, notamment je suis pas sûr qu'il y avait de la motion capture dans le 1, mais là en tout cas ça se ressent beaucoup plus, je trouve.
Le moteur, c'est plus le même moteur.
C'est de l'Unreal Engine 4. Alors, j'irais pas dire jusqu'à c'est beau. Je trouve qu'on est encore un peu dans une Uncanny Valley chelou. C'était déjà le cas, je trouvais, dans le premier Life is Strange. Mais les animations
sont. Les décors. Je trouve qu'il y a une vraie progression dans les décors, dans les détails, notamment dans le magasin. À un moment, on peut regarder quasiment tous les objets en vente. Enfin. C'est plus dans les environnements où il y a une vraie avancée sur le rendu.
Et même, moi, je trouve que la plus grosse avancée par rapport à Life is Strange 1, et ça montre aussi à quel point Dontnod finalement a réussi à faire en une suite ce que Telltale n'a jamais réussi à faire en une nombreuse série de jeux, c'est qu'on voit une progression quand même technologique entre deux épisodes. Même si ça reste un jeu narratif, c'est pas une raison pour laquelle on devrait pas nous-mêmes évoluer. Et en l'occurrence, vous voyez, le jeu des personnages est très, très, très. Alors au début, c'est un peu bizarre, puis après, on s'y fait assez vite, mais il est un peu fluide, un peu, on dirait vraiment des vrais acteurs qui animeraient des modèles un peu lisses de personnages. On dirait des personnages Pixar animés en motion capture, c'est très étrange, mais ça marche finalement assez bien, on finit par s'y faire pas mal du tout, et ça donne une patte un peu plus, encore plus authentique à ce jeu qui l'est déjà beaucoup par son propos. Et moi, je trouve ça vraiment bien, j'ai été bluffé par ce Life is Strange jeu, alors que j'étais pas pourtant le client favori à la base.
Patrick
Oui, bah pareil, hein. Moi j'appréhendais évidemment Life is Strange 2 parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, on se demandait ce que ça allait donner, je veux pas taper sur Telltale parce qu'on l'a,
l'a déjà fait,
la messe est dite, mais j'ai un peu l'impression que c'est l'anti-Telltale ce jeu, enfin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on... Moi, il m'a pris, c'est-à-dire qu'un jeu d'aventure, on se lance dedans, ça devient une bulle. Moi, c'était une bulle de 3 heures de jeu, mais c'est, bah, est-ce que c'est encore du jeu? Je sais pas. En tout cas, c'est une expérience. Moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Alors, je sais plus si j'avais vu les bandes annonces, mais je savais qu'il y avait cette notion de fuite en avant, alors, je sais pas si on peut spoiler, mais moi, j'ai quand même pris comme une baffe dans la figure l'événement qui enclenche cette fuite. Moi, je trouve que le jeu réussit très, très bien, à nous anesthésier pendant quelques minutes, hein. Pas rentrer en détail parce qu'il faut vraiment le faire, il faut faire ce jeu.
On le voit venir quand même. Il y a un death flag, il y a un death flag sur la tête du père.
J'ai passé, comme souvent dans les jeux d'aventure, je passe beaucoup de temps à lire tous les petits détails. Je me suis vraiment fait surprendre. Il a réussi à me surprendre alors que je savais qu'il y aurait une fuite en avant. Malgré tout, lorsque ça arrive, il y a un côté choc. Dans l'image, dans ce qui se passe, qui fait que c'est un détonateur et du coup ça marque vraiment l'expérience de jeu. Je trouve qu'il y a vraiment un moment où on est happé par cet événement dramatique qui a une ampleur que moi j'avais pas du tout imaginé. C'est-à-dire que ça part complètement en vrille et on se dit quand même. C'est très impressionnant. Ce moment-là, moi, c'est un grand moment de jeu et après encore une fois un jeu d'aventure, il est ce qu'on y met soi-même en tant que joueur, en tant que ce qu'on va y... Et moi, je me suis vraiment laissé emporter par cette histoire. Contrairement au jeu tel où les mécaniques sont grossières, les mécaniques on les voit avec machin va se rappeler, il y a pas de tout ça est il y a une épure aussi dans le, je trouve, dans la réalisation, on en parlait, le moteur a évolué et je trouve que ça joue aussi sur le rendu de l'environnement, c'est crédible, on est dedans, on se pose pas de questions et il y a pas ces mécaniques un peu grossières de tel qui ont été tellement rabâchées qu'on n'en pouvait plus. Là, je trouve que c'est transparent, on prend des décisions à certains moments et surtout on passe son temps à vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'on va picorer des infos, tu disais dans le portable, il y a beaucoup de choses à lire, mais aussi comme toujours dans la narration environnementale, contextuelle, avec des choses à lire sur un ordinateur, des papiers, etc. Et puis il y a des vrais passages que j'ai trouvé réussis, le côté le dessin par exemple, c'est tout bête, mais le fait de pouvoir dessiner, moi je suis nul en dessin, j'ai toujours fantasmé un jour de savoir dessiner, et puis le jeu te permet d'avoir l'impression que tu sais dessiner, c'est tout bête, mais il y a des moments comme ça, et ça je crois que c'est la grande force de Dontnod, il l'avait déjà montré dans le premier Life is Strange, ce sont des jeux où ils te laissent aussi l'occasion de profiter du temps, de te poser, de vraiment t'imprégner d'une ambiance très particulière avec là des personnages très forts, je trouve.
Moins dans celui-là quand même. Dans les mécaniques du gameplay, pourtant, c'est moins le cas, puisque dans le premier Life is Strange, puisqu'on pouvait remonter le temps n'avait pas d'importance. On pouvait vraiment prendre son temps.
Et justement, pour moi, c'est une des grandes forces de cette suite, c'est un, de prendre d'autres personnages. Voilà, tu en parlais, ils sont partis sur d'autres personnages, donc ça agrandit la mythologie aussi de l'univers Life is Strange, avec donc cette... Captain Spirit qu'on a vu entre deux, et puis aussi de faire l'impasse sur ce gimmick du premier Life is Strange qui était le jeu avec le temps.
C'est courageux.
Et ça, c'est courageux parce que courageux. C'est quand même ce qui a fait beaucoup parler à l'époque. On avait beaucoup parlé de ce gimmick, même si aujourd'hui, quand on y repense, c'est pas ce qu'on garde. Ce qu'on garde, c'est l'histoire, ce sont les personnages. Pour moi, c'est pas ça au second plan, finalement. Et là, je trouve que c'est fort de dire on écarte ce gimmick-là, on passe sur autre chose.
Ça, c'est très courageux, franchement.
C'est courageux. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent. On a encore le paranormal, entre guillemets, est là, par petites touches. Pour moi, il y a quelque chose de très Stephen King, évidemment, dans ce qui se passe avec le petit frère.
C'est le fantastique
le quotidien.
C'est un monde réel. Non, mais c'est...
C'est la force de Stephen King.
A priori, c'est la définition fantastique. C'est vraiment un monde normal,
quotidien, avec les...
Un ou ou quelques éléments, pas plus, mais de surnaturel qui font que ça rend la chose encore plus bizarre, inquiétante, quoi. Et ça, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, on notait, il n'y a pas de gimmick. Le seul gimmick qu'il y a, en fait, à mon sens, qui ne remplace pas évidemment le retour dans le temps, mais c'est la gestion du petit frère, en fait. Mmh. Et c'est vrai que jamais dans un jeu vidéo, j'ai eu autant les yeux rivés sur un personnage secondaire.
R1, je crois.
Ah ouais, il fait quoi là ? Il fait quoi là ?
Il est où ?
Il est où, putain ? Bref, et genre, ils arrivent vraiment à instaurer une inquiétude.
Ico,
pour dire,
tu penses à Ico ?
Oui,
un peu,
mais avec un Ico te paraît vieux.
Ah bah oui,
je sais pas. En fait, ils ont réussi parce qu'évidemment qu'on pense à Ico dans sa relation. Hein. Mais Ico, il y avait ce côté où
ça faisait partie du gameplay.
Tire la main.
C'était un gimmick de gameplay. Là, ça l'est pas.
Et là, ils te l'imposent pas.
C'est toi en tant que.
Mais alors, tu ne quittes pas des yeux.
Parce qu'il y a une. Alors, je donne juste un exemple, mais que moi je trouve qui est assez parlant. Il y a un moment donné, on se balade dans les bois avec le petit frère, et il y a des baies partout. Et moi, bon, je passe pour. Je viens de la montagne. Je sais qu'on mange pas n'importe quoi dans la montagne. J'en fais. Bon, il en mange une. J'ai pas fait attention, je fais t'en mangeras pas deux mon coco, hein, parce que voilà, mais il faut le surveiller en fait. Il y a plein d'actions d'ailleurs qu'on peut faire à deux qui sont indiquées sur le HUD, qui est toujours un peu crayonné hein, comme dans le premier Life is Strange, par des icônes bleues en fait, et ça permet en fait de nouer des liens avec son frère. C'est à dire que il faut quand même prendre soin de son frère. Il y a des moments où il y a des obstacles, il faut l'aider. Moi il est tombé une fois parce que j'ai pas surveillé, j'ai fait bon, la prochaine fois que je vois un obstacle je fais attention. Et c'est vrai, en fait on apprend à devenir père un peu, en tout cas grand frère, et par le gameplay, mais par du gameplay qui est finement distillé, par une piqûre hypodermique, on sent rien, quoi.
Et rien qu'à en parler, là, je... Vous savez, rien, il y a 5 épisodes, on en a vu un. En a vu un.
C'est ce qui m'inquiète.
Et pourtant, dès ce premier épisode, moi, j'en suis persuadé, mais j'en suis intimement persuadé. Je pense que The Walking Dead de 2012 a été un renouveau du jeu narratif, on l'a dit un nombre de fois phénoménal. On sait que Life is Strange était un héritier de The Walking Dead, hein, pour plein de choses. On reprenait des mécaniques, on reprenait aussi une certaine ambition. Et bien, je pense que ce Life is Strange 2 est un nouveau marqueur. Je pense qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire tout ce qu'il y a parce qu'on ne l'a pas encore intégré, on ne l'a pas encore digéré, on n'a pas encore vu les 4 autres épisodes. Ouais. Mais je pense qu'il y aura, comme il y a eu un avant et un après The Walking Dead, il y aura un avant et un après The Life is Strange 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette capacité de Dontnod à mettre le jeu narratif dans le quotidien, dans le présent aussi, dans le contemporain, au meilleur sens du terme. Il y a cette finesse de narration à tous les niveaux, c'est-à-dire que... on a l'impression qu'ils se sont dégagés de tellement de contraintes, de tellement de finalement d'exercices imposés du jeu vidéo.
Les fameux gimmicks du...
Le point, je pense, une des plus grosses baffes, un peu finalement anecdotique que je me suis prise, c'est ce personnage qu'on rencontre à un moment où je pense que tous les joueurs et les joueuses auront ce même réflexe. On se dit non, c'est un psychopathe, je fais une connerie, pourquoi je rentre dans sa voiture, et on tombe sur un personnage bienveillant
qui nous raconte
cette bienveillance arrive comme une baffe. C'est waouh, ils ont osé à ce point-là dans cette quête, dans cet exil, cet exil forcé, ils ont osé nous mettre un personnage bienveillant. Qu'on s'attendait à, je sais pas toi, mais on s'attendait à tout sauf à ça.
En fait, moi personnellement, j'attendais avec impatience le moment où on allait se rendre compte que c'était un pédophile ou je sais pas quoi.
Mais bien sûr,
moi je voyais énormément qu'on était un pédophile, ce monsieur. Mais finalement, non, il est très gentil.
Tu t'es fait pour en même temps, c'est assez adroit quand tu le rencontres la première fois.
Il regarde du porno dans un magasin.
Tu dis, il est pas net ce mec. Et puis voilà.
Non, mais c'est
en fait, ça concourt, ce personnage, parmi d'autres événements du jeu, pour moi, il concourt à créer une tension. C'est-à-dire que moi, pendant 3 heures de jeu, c'est paradoxal parce qu'on est quand même sur un tempo plutôt lent, on est sur un jeu plutôt contemplatif parfois, on est sur un jeu plutôt, voilà, qui a un tempo plutôt posé. Moi, j'étais 3 heures sous tension à me demander toujours, et c'est là que je me suis dit, là, ils ont réussi parce que j'ai des enjeux, je me suis impliqué avec ces personnages. C'est là où tu sens que t'as mordu à l'aventure.
La gestion de l'argent, c'était le shopping le plus stressant de ma vie.
Et tu regardes, t'as 30 centimes, t'as 30 cents dans la poche.
Fois que j'arrive devant la caissière et je regarde, elle me dit ça fera tant, et c'est juste en dessous de ce que j'ai, je fais ça passe. Ah, tu vois, genre,
Et c'est là où tu te dis qu'un jeu d'aventure réussit son pari, c'est quand t'es pris dedans et que t'as une vraie tension, alors que, voilà, encore une fois, le tempo est plutôt lent, mais non, tu y crois parce que t'as des vrais enjeux narratifs avec des personnages que tu as croisés, que tu... Enfin voilà, t'étais vraiment engagé dedans.
Moi, je trouve que c'est très sincèrement, on en a parlé beaucoup dans Silence on joue de ce qu'on attend d'un jeu narratif, de ce qu'on attendait des jeux narratifs et pourquoi les nouveaux jeux narratifs nous plaisent et tout ça. Mais là, il y avait quelque chose. Enfin, à certains moments, j'en aurais chialé tellement c'était ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais qu'un jeu me raconte et comment je voulais qu'un jeu me raconte une histoire. Il y a certains moments. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans le premier Life is Strange, qui était anecdotique, mais asseyez-vous.
Bah oui.
Alors, asseyez-vous.
Parlons-en.
Ça, c'est génial.
Moi, j'ai toujours trouvé ça nul.
Attends,
laisse-moi finir. J'ai toujours trouvé ça nul. Les moments où tu t'assois et t'as un panorama avec de la musique. Là, c'est autre chose. C'est du flavor text. C'est genre, c'est pas obligatoire. Tu peux te poser et écouter une discussion entre les deux. Mais c'est intéressant.
Et c'est presque du roleplay quand tu joues.
Exactement.
C'est que tu rentres dans tu es complètement immergé en tant que joueur. Tu deviens Sean. Tu rentres dans l'histoire et dans le jeu.
Et ce moment incroyable où on danse avec son frangin, je sais pas si vous l'avez vu.
Ah non, j'ai dit de s'arrêter. Moi, j'ai dit tu t'arrêtes, faut qu'on parle.
Et ben,
ah pareil. Ah, je lui ai dit non, ça suffit les conneries.
Écoutez, je vous assure, il y a juste un moment de joie intense, mais de joie intense qui traverse le joueur, qui nous traverse. Et c'est bête, je vais juste vous en parler, mais ils ont fait un truc. Ils ont fait un truc. On est sur le lit, on danse parce qu'il y a cette musique. En plus, c'est un titre connu, je ne sais plus. Je vous le ferai dans un arrière.
Il y a l'environnement musical qui est très bon.
Et les deux frangins qui dansent. Tu as un contrôle de cette scène-là. Et tu as un contrôle avec la gâchette. Tu zoomes et dézooms. Et avec le stick, tu fais bouger la caméra.
Ouais.
Et en fait, les gamins, ils sont en train de sauter sur le lit. Et en fait, tu fais le réel. Tu fais une sorte de clipisation de ce truc-là en faisant bouger la caméra et en faisant des zooms. Et c'est là où je te dis, je rigolais en ayant les larmes aux yeux pratiquement parce que
tu sais que c'est après ça va pas être la rigolade.
Parce que tu fusionnes encore une fois avec les personnages, il y a ce moment où les Dontnod, mais arrêtez de me proposer tellement ce que j'ai envie de ce que j'ai envie.
Ça, c'est intéressant ce rapprochement avec les corps dans le jeu d'aventure. C'est un sujet qui est recherché depuis longtemps. Moi, je me rappelle, c'est tout bête, mais au début de The Walking Dead saison 2, où il fallait se recoudre. Et pareil, tu avais ce passage à la manette où tu actionnais les gâchettes.
Ça
avait été un moment, tu vois, de souffrance presque à l'écran. Et ça, c'est vraiment un propre du jeu narratif. C'est te proposer comme ça une fusion avec les protagonistes, une fusion quasiment physique même. Lorsque tu as, j'ai pas fait cette séquence, moi je l'ai zappé, mais je vais peut-être la refaire du coup. Mais c'est vraiment un propre de ce genre, c'est te proposer comme ça de rentrer quasiment dans la diégèse et de faire toi-même partie du ressenti des personnages. C'est vraiment particulier.
En fait,
et là, ils ont réussi, vraiment.
C'est là où je trouve qu'ils ont réussi aussi, c'est que moi, je suis en désaccord total avec Arwan sur son choix de danser avec le gamin, alors que déjà, j'étais vénère contre Sean parce qu'il n'avait pas dit la vérité au gamin plus vite que ça. C'est son choix, immersion, Patrick.
Non, mais justement.
Et du coup, j'étais en mode, non, stop, arrête de danser, on va parler maintenant. Et d'ailleurs, après, vu ce qui se passe juste après, il aurait mieux fait de lui parler tout de suite. Voilà. Et du coup, moi, j'ai bien eu raison. Mais par contre, la scène, je sais plus, c'est juste après ou juste avant. Non, c'est juste avant. Mais pareil, tu me disais, tu étais à deux doigts de chialer. Alors, je pas chialé, mais j'étais vraiment ému du moment où il regarde son téléphone, là, sur le vent. J'étais en mode, oh là là, c'est pas facile quand même ce qui se c'est quand même pas évident.
C'est la lettre que laisse leur ami, justement, que j'ai trouvé poignante.
Oh, tu l'as trouvé où?
dans l'hôtel, je crois que dans le sac.
Ça, je trouvais ça cool, un peu le côté Metal Gear où tu trouves.
Mais elle est poignante. C'est écrit. Là, on est sur un texte écrit, mais c'est tout simple. C'est quelques lignes, mais
sérieux.
T'oublies pas quoi.
Chers amis, en plus, je sais qu'il y en a quelques-uns à nous écouter, mais. Les gens de Dontnod, il y a quelque chose de l'ordre du chef-d'œuvre qui est en train de se passer.
Là, vous m'avez convaincu alors que j'étais pas du tout bien parti avec Life is Strange, parce que voilà. Mais attention, parce qu'il y a 5 épisodes et que des faiblesses de Life is Strange 1, à mon sens, c'était que justement il y avait vraiment des épisodes vraiment en dessous des autres et il y en avait des très bien aussi. Moi, j'ai vraiment adoré, par exemple, c'était l'épisode 4 de Life is Strange. Pour moi, c'est mon préféré. L'épisode 1 était pas mal non plus.
Sujet plutôt dur, non? C'était le 4.
Non, justement. Alors l'épisode 4, après qu'on soit passé dans le tir larme absolu avec les énormes ficelles machin, justement, c'est ça qui m'avait pas plu. C'est l'épisode 3 ou la découverte de l'épisode 3. Bref, on va pas entrer dans les détails, mais j'aimerais, mais s'il vous plaît, avoir une régularité régularité, de qualité telle qu'on a eue sur l'épisode 1 sur cette saison. J'espère vraiment qu'on sera au même niveau sur les 4 prochains épisodes. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite.
Bravo et c'est forcément incroyable. Je pense qu'on a complètement explosé. On a fait deux jeux. Life is Strange 2, on n'a pas de date encore à l'heure où on enregistre. Ça va peut-être venir très vite. Mais on n'a pas de date pour le deuxième épisode.
Je crois que leur politique sur la saison 1, c'était toutes les 6 semaines. Ouais. Est-ce qu'ils vont tenir le rythme là, sachant que j'ai l'impression que la production est peut-être un peu plus forte. Ça va peut-être être plus longtemps, peut-être être 2 mois plutôt. Mais voilà.
Il y a tellement de choses. Ouais, je peux parler d'un dernier passage, mais c'est encore une fois sur les détails. Mais il y a un moment où on arrive à une station-service, mais on n'arrive pas à la station-service comme ça. Ouais. On arrive en ayant marché 400 mètres sur une route, au bord d'une route, à côté d'une forêt. Et je trouve que ces 400 mètres-là sont hyper forts.
J'ai couru.
Il y a un moment où... parce que ces 400 mètres permettent de voir arriver la station-service. Bah, je trouve qu'il y a de choses super fortes, super bien pensées dans ce Life is Strange 2. C'est juste incroyable. Je vais juste parler, parce qu'autrement, j'arriverai pas à en parler. Je vais juste parler très, très rapidement de Two Point Hospital.
At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future. And hardly anything will stand in our way.
J'en parle maintenant parce qu'autrement je pourrais plus en parler vu que c'est un jeu qui est sorti au milieu de l'été, Two Point Hospital. Pourquoi en parler maintenant? Parce que j'ai dit, c'est parce qu'autrement on n'aura plus le temps. Et parce que c'est un très bon jeu et parce que c'est un thème, c'est le bon mot, qui n'avait plus été abordé avec cette qualité-là depuis 1997. Sim Hospital, évidemment, le jeu de développement gestion de Bullfrog Productions et édité à l'époque par Electronic Arts, donc 97, Thème Hospital qui avait marqué les esprits quand même des gens qui aimaient bien les Theme Park, les Sim City, c'était les grands jeux de gestion de cette époque, les Tycoon et ce genre de choses. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a notamment le producteur de Thème Hospital, Mark Wesley, et l'artiste principal, Gary Carr, qui finalement, après des années et des années, se sont regroupés, ont créé Two Point, le studio Two Point, en fait, et ils ont sorti...
D'où le titre du jeu, d'ailleurs.
D'où le titre du jeu, un peu l'acide meilleur, donc on met le nom on met un nom avant le jeu, Two Point Hospital, et donc on retrouve un jeu de gestion d'hôpital.
D'hôpital.
C'est ça. Et il est très bien fait. Et c'est vraiment... On sent l'amour du genre dans Two Point Hospital. Ça m'a rappelé, parce que ces jeux sont sortis un peu très vite l'un après l'autre, sur la structure générale, le Jurassic World dont on a parlé. C'est-à-dire que, pour moi, c'est presque un défaut. Il n'y a pas de mode bac à sable. Il n'y a pas le mode où t'as 20 000 dollars.
On
peut pas. Il n'y a pas de mode libre. C'est dans un truc de scénario avec une map unique où tu débloques les hôpitaux les uns après les autres, et ça te sert de tutoriel un peu hyper long, du tutoriel sur la longueur, parce que tu vas débloquer des nouvelles salles, avec des nouveaux objectifs, avec des nouvelles structures qui vont être possibles de développer dans chacun des hôpitaux, sachant que tu peux revenir dans un hôpital que tu as déjà géré avec tes nouveautés et le faire sur la longueur. Finalement, c'est ça qui peut servir de bac à sable, c'est que tu débloques les différents lieux et il y en a un où tu décides de t'installer sur la longueur, parce que finalement, en fait, pour débloquer une zone suivante, il suffit d'avoir une étoile et tu débloques une zone suivante. Et pour avoir les 3 étoiles d'un hôpital, c'est un peu plus long.
Mais si t'as 0 étoile, c'est que t'as raté, en fait. C'est vraiment que...
Ça, c'est le truc, c'est qu'il est très généreux. Il est très très peu frustrant. Ouais. C'est-à-dire que même si tu fais une connerie, tu développes ton hôpital n'importe comment. Avant que tu fasses faillite, il faut vraiment t'accrocher, si tu veux.
Ça peut être un objectif secondaire.
Objectif secondaire, me planter, mais sinon, c'est souvent possible de récupérer les trucs. Il y a des niveaux qui sont un peu plus tricky que d'autres, notamment le niveau de l'hôpital universitaire où bah t'as que des étudiants que tu peux embaucher et donc en fait ils sont à zéro, niveau zéro de l'expérience. Donc il va falloir faire des salles de formation et donc évidemment recruter beaucoup de gens parce que pendant que t'en formes les patients, si tu veux former tes médecins,
faut
soigner les gens. Donc il y a des choses qui vont être à gérer. Il y a énormément de variations sur les maladies. On est sur évidemment l'humour de thème hospital.
C'est-à-dire
les maladies sont totalement à la con, les têtes d'ampoule, les gens qui se prêtent pour Freddie Mercury, les clowns. Il y a évidemment si des patients meurent, il y a des fantômes. Ouais. Et donc il faut que des gens aient des aspirateurs à fantômes. Oui, il y a énormément
des Ghostbusters.
D'humour comme ça, mais il reste que c'est un jeu de gestion. Il va falloir gérer le fric, la disposition des salles, la fluidité de tous les éléments. Voilà, c'est un jeu très riche et franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il manque juste ce truc. Moi, dans les jeux de gestion, je suis toujours en manque d'un mode bac à sable, c'est-à-dire laissez-moi virer les scénarios, virer les trucs et laissez-moi. Mais
il n'y a pas une petite compatibilité avec Steam Workshop là, histoire de récupérer des nouvelles cartes ou quelque chose comme ça?
Écoute, pas à ma connaissance. Après, c'est peut-être quelque chose qui va venir.
Ça me paraît particulièrement adapté.
Oui, tout à fait. Mais alors, j'ai pas vu. Alors, peut-être que j'ai pas encore fini tout le. Je suis allé loin. Pourtant, j'ai débloqué un certain nombre de choses, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on débloque tout à la fin, j'en sais rien, c'est pas présenté en tout cas. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va arriver après.
Le fait de
scénarios, rajouter des scénarios, rajouter des choses.
Bah, c'est comme Frostpunk, là, je vois, ils ont rajouté plein de scénarios. Donc honnêtement, c'est le type de jeu typique à avoir des scénarios rajoutés par la suite gratuitement en plus.
En tout cas, très très belle réussite pour ceux qui sont nostalgiques de Theme Hospital. C'est vraiment plus qu'un hommage. En tout cas, c'est une mise à niveau de l'univers et un peu de cet humour assez caractéristique. Voilà, Two Point Hospital dispo sur PC, Windows, Mac et Linux, je crois aussi. Voilà, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo. Encore une fois, achetez Life is Strange 2, jeu premier épisode.
On valide.
Non, mais
attendez les 5.
Non,
ça sera moins cher.
Mais non, mais celui-là,
jeu épisodique, faut le dire.
Je suis désolé, celui-là, pour ce qu'il a donné, même le premier épisode. Il vaut les 30 euros.
Ah,
à lui tout seul.
Bah, alors, il coûte 8 euros l'épisode, donc à la rigueur. Et après, on peut acheter le reste à un prix moins cher aussi.
Ah oui, ça peut être une solution. Mais c'est vrai que, allez-y.
Sérieusement, et puis il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle, il faut qu'on. Parlez-en. Enfin, il y a tellement de choses à partager là-dessus. Voilà. Bref, c'est fini pour cette semaine. Donc, pour le jeu vidéo, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
On joue beaucoup quand même. On a quand même une fin d'année monstrueuse. Dans tous les domaines. On parlait de Forza, on parlera d'Assassin's Creed bientôt. Enfin, on sait qu'il y a des. C'est quand même une fin d'année. Je trouve que dans tous les genres de jeux, donc voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. Moi j'ai revu un film que j'aime beaucoup, qui est considéré par certains par un nanar, mais que moi j'affectionne énormément. C'est Event Horizon, un film de 97 de Paul Anderson, un film de science-fiction que moi j'aime beaucoup. C'est pour faire simple, c'est une sorte de film de maison hantée dans l'espace. Je l'ai revu, je trouve qu'il est, il a pas vieilli. Bon, il y a comment dire, Sam Neill au casting, Laurence Fishburne, et c'est vraiment un film qui fait peur. Enfin, le film d'angoisse je trouve que
au niveau de Pitch Black ou pas, parce que Pitch Black,
il fait pas peur, Pitch Black.
Attends, le premier. Le premier, en fait.
Il y avait une ambiance, mais j'ai pas peur.
Inquiétant.
Event Horizon, il fait flipper vraiment. Encore une fois, voilà, c'est une maison en fait, c'est un vaisseau spatial qui a traversé un trou noir, donc qui est passé de l'autre côté. C'est un vrai film de maison hantée dans l'espace, c'est vraiment réussi. Alors le monsieur, après le réalisateur, il a fait les Resident Evil qui sont un peu moins concluants. mais encore une fois, moi je le conseille si vous avez. Pour moi, c'est certainement un jeu auquel les développeurs de Dead Space ont joué.
D'accord.
Dead Space, il jouait aussi sur ce côté, dans l'espace, angoissant. Bon, ouais. Il allait beaucoup plus dans le gore, alors que Event Horizon, c'est plus psychologique. Mais encore une fois, c'est un film vraiment angoissant que moi je revois toujours avec plaisir et avec un casting de fou. Donc voilà, je recommande Event Horizon de 97, je crois. Voilà.
Quentin.
Bah moi aussi, c'est du cinéma. Alors en fait, l'autre jour, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps et que j'avais pas eu l'occasion parce que de toute façon, il a pas dû être très bien distribué. C'est La Loi de la Jungle, qui est une comédie française par Antonin Perejatko. Et ça raconte l'histoire. Alors, juste le pitch est formidable. C'est le ministère des normes qui décide de construire un projet de piste de ski en pleine Guyane, en pleine jungle guyanaise. Voilà, ça s'appelle Guyaneige et ça va être le fleuron hein, de tourisme guyanais. Voilà, c'est con, hein. C'est tout le principe du film. Donc on envoie Châtaigne, qui est le stagiaire ingénieur du ministère et qu'on doit envoyer pour certifier que le chantier est bien aux normes, justement, puisque c'est le ministère des normes. Et il arrive, et évidemment, c'est débile, parce que bon, déjà, le pitch est débile, hein. On veut construire une piste de neige au plein de Guyane. Et ça, c'est un humour qui est tout à fait drôle, parce que c'est une critique un peu post-colonialiste, genre la puissance de la France en plein milieu de la jungle guyanaise rayonne, tu vois, c'est un peu dans ce goût-là. Le film a été tourné en 22 images par seconde, ramené à 24, ce qui fait que les acteurs parlent très vite. Tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment un humour, il y a un gag toutes les deux secondes, c'est très très drôle. C'est un humour un peu, comment dire, de circonstances. Des fois, il y a des mecs qui se prennent des flèches de poison dans le cou en plein milieu de leur phrase et qui tombent par terre. Il y a des faux raccords faits exprès.
Ça peut être un bon complément avec Event Horizon, justement, faire une sorte d'équilibre.
Il y a de l'humour administratif à base de vous n'avez pas ramené votre certificat de vivant, voilà, il y a rien qui me prouve que vous êtes vivant, monsieur, quoi. Je veux dire, avec l'huissier qui arrive, il est bien en tenue d'huissier, il est en plein milieu de la jungle sur sa pirogue, il a un six coups dans la jungle et là il va chercher le mec parce qu'il a pas le bon certificat. Enfin voilà, c'est très 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 marrant à regarder. Et il y a toute une esthétique années 60, vieux film, c'est de Belmondo, c'est bien, ouais. Et tout ça, qui est vraiment chouette. Et de la musique de Goldorak sur des pirogues. J'avoue que j'avais jamais vu ça en fait. Voilà, c'est sorti le 15 juin 2016 et c'est regardable nulle part. Voilà, bonne chance.
Voilà, d'accord. On va rester dans le what the fuck parce qu'il faut en parler quand même. Coin Coin et les Inhumains.
Oui, Carpentier, là, le code de la route.
Coin Coin et les Inhumains, donc la suite hein, du petit Quinquin. Bruno Dumont, Arte, c'est encore. Alors, je sais pas si les deux premiers visés, c'est fini sur Arte plus 7, il n'y a plus rien.
Mais si c'est comme pour Quinquin, ils vont le rediffuser à un moment donné, je pense.
Ouais, sans doute, mais le ratez pas ou quand ça sort en DVD, je ne sais pas, débrouillez-vous. Alors, il faut avoir vu le premier, enfin disons, il faut avoir vu le premier. Bah, pour s'habituer à ce niveau de what the fuck, je pense que le premier est assez indispensable parce que là on gagne, hein. On passe une étape on level up dans le what the fuck et on retrouve le commandant, on retrouve Carpentier, on retrouve cet univers complètement barré, mais au-delà du barré, c'est à mourir de rire.
C'est pas pour tout le monde, hein, honnêtement.
Non, mais il y a, c'est conceptuel. C'est conceptuel dans What the Fuck moi j'ai trouvé ça incroyable.
Moi aussi. Peut-être rediriger les gens d'abord vers Maloute s'ils connaissent vraiment pas l'univers de Bruno Dumont, qui est peut-être un peu plus accessible que les Quinquins et Coin Coin. Mais c'est vrai que moi je sais qu'il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Moi je suis partie des gens qui adorent. Mais bon, je peux pas en vouloir aux gens qui trouvent ça pas rythmé et ou quoi.
Ah ouais, non, mais non, oui, ils ont le droit. Les endroits Coin Coin et les Inhumains. Ah merde, je voulais en parler, c'est plus sur Arte plus 7, c'est dommage.
C'est pas grave, non mais ils vont ressortir, puis au pire ils sont achetables en DVD, parce que Arte en général s'auto-édite, donc ça se fait bien.
Bon ben voilà, c'est fini, on se retrouve, cet épisode est donc été réalisé par Jules Gelaoui, et le Binge Audio, voilà, on y est, et donc on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr, sur Binge Audio et sur les internets. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.